Bonsoir à tous. J'espère que vous ne vous êtes pas fait trop mouiller. En tout cas, bravo à ceux qui ont bravé la pluie et les éclairs. Non ? Alors, la séance de ce soir sera un peu particulière. Parce qu'en fait, elle ne sera pas centrée uniquement sur une figure. Je ne vais pas d'abord partir d'une biographie ou d'une figure singulière, mais c'est plutôt une séance un peu transversale, puisqu'elle sera d'abord axée sur une dévotion ou un courant spirituel qui a parcouru les siècles. Alors bien sûr, on va rencontrer plusieurs figures, mais l'axe, ça sera d'abord celui de la dévotion au Sacré-Cœur, qui a donc... parcouru l'histoire et qui s'est développée de manière de plus en plus ample jusqu'à culminer dans une triple reconnaissance magistérielle, puisque c'est quand même pas si courant. Il y a eu quand même 3 encycliques consacrées à la question de la dévotion au Sacré-Cœur. La première, c'est 1899, le pape Léon XIII, dans l'encyclique Annum Sacrum, l'année sacrée, 1899, donc on arrivait à une année... jubilaire 1900. Et donc Léon XIII avait publié une encyclique dans laquelle il annonçait un événement important, la consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Et donc il a réalisé cette consécration le 11 juin de la même année. Consécration du genre humain, donc pas seulement de l'Église, mais du genre humain au Sacré-Cœur. Et puis ensuite en 1928, le pape Pie XI a lui aussi publié une encyclique, un Miserentissimus Redemptor, qui est comme une sorte de somme, une petite somme théologique sur le Sacré-Cœur. Et la même année a été instituée une messe et un office nouveau pour l'octave du Sacré-Cœur. Et la fête du Sacré-Cœur a vraiment à ce moment-là représenté une des fêtes principales de l'année liturgique. Et puis enfin, donc je vais m'arrêter un peu plus sur cette troisième encyclique, Pie XII, 1956, Aurietis aquas in gaudio, vous puiserez les eaux aux sources du salut, une citation d'Isaïe XII, Aurietis aquas. Et donc là, c'est vraiment dans cette encyclique, on pourrait dire, le couronnement de la dévotion au Sacré-Cœur. Alors je précise quelques points sur cette encyclique. D'abord, pourquoi en 1956 ? Parce que cette année-là, c'était le centenaire d'un décret de Pie IX, qui en 1856 avait étendu à l'Église universelle la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et je cite, « Il étendit à l'Église universelle la fête du Sacré-Cœur de Jésus et prescrivit qu'elle fût célébrée dignement. Voilà. » Et donc Pie XII, dans cette encyclique de 1956, qui commémore ce centenaire, à plusieurs points d'insistance. Il y en aurait sûrement davantage, mais en tout cas j'en relève au moins 2. Le premier, c'est que pour lui, en tout cas il le souligne, le culte du Sacré-Cœur n'est pas une dévotion parmi d'autres, mais, je cite, « on doit attribuer au Sacré-Cœur le même culte d'adoration dont l'Église honore la personne même du Fils de Dieu incarné ». Donc vous voyez, c'est une dévotion qui en fait traduit le cœur même du christianisme. C'est le mystère du Christ. Vénérer le cœur de Jésus, c'est poser un acte de foi et d'adoration à l'égard de la personne même du Verbe incarné. Donc c'est pas, vous voyez, une petite dévotion superflue ou secondaire, mais c'est une manière d'exprimer la foi dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption. On va y revenir. Donc ce n'est pas une dévotion parmi d'autres, mais une dévotion centrale. Et puis deuxième point d'insistance de Pie XII, ça n'est pas une dévotion qui serait née, comme on le pense parfois, avec Sainte Marguerite Marie au XVIe siècle, ou bien pour les plus érudits, au début du deuxième millénaire avec Ludgard ou Gertrude ou Catherine de Sienne. Non, c'est une dévotion... Les fondements de cette dévotion sont à chercher dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, dans les épîtres de Saint Paul. Donc c'est une dévotion qui a ses racines aux origines même du christianisme. Je vous cite quelques paroles de l'encyclique, donc Aurietis Aquas, donc au numéro 53. Ce culte tire son origine des principes mêmes de la doctrine chrétienne. Au numéro 52, son étonnant progrès vient de sa parfaite cohérence avec la nature même du christianisme, qui est religion d'amour. On va revenir au lien entre le symbolisme du cœur et puis le mystère de l'amour. Et puis, toujours au numéro 52, on ne peut pas dire que ce culte soit venu d'une révélation privée de Dieu, une révélation privée à Marguerite Marie ou à Gertrude Delfta, par exemple, ni qu'il soit soudainement apparu dans l'Église, mais il a jailli de la foi vivante et fervente d'hommes comblés de dons surnaturels qui adoraient le Rédempteur et ses plaies glorieuses, témoignage bouleversant de son amour infini. Les révélations dont Sainte Marguerite Marie fut l'objet n'apportèrent donc rien de nouveau à la doctrine catholique. Vous voyez, on pense parfois que, voilà, avec les révélations du Sacré-Cœur à Marguerite Marie, à Paray le Monial, bien, tout d'un coup, c'est la naissance, ou en tout cas la révélation de la dévotion du Sacré-Cœur. Non, non, rien de nouveau. Ce qu'a apporté Marguerite Marie, c'est une étape importante dans l'expansion, dans le développement, dans le rayonnement de ce culte du Sacré-Cœur. Mais au niveau de la doctrine, il faut remonter jusqu'à l'Évangile. Au numéro 55, après ce que je viens de dire, frère, il est bien clair que c'est à l'écriture, à la tradition et à la liturgie que les fidèles doivent remonter comme à la source limpide et profonde de ce culte, s'ils veulent en pénétrer la nature intime et recevoir de sa méditation un aliment qui les nourrisse et augmente leur ferveur. Voilà, donc l'écriture, la tradition, la liturgie. Ça me permet de vous dire un petit mot sur cette question. Je suis toujours dans mon introduction. Le lien entre théologie, liturgie et dévotion. Le mot dévotion ici étant à prendre au pluriel, hein, pas la dévotion telle que je vous l'ai présentée chez saint François de Sales la semaine dernière, hein, la vie dévote, mais les dévotions, les pratiques de dévotion. Hein. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur un document dont vous avez des extraits sur la feuille de route, mais je vais d'abord vous parler de la structure générale de ce document. C'est un directoire qui a été publié en 2003 par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et qui s'appelle « Directoire sur la piété populaire et la liturgie ». Et alors dans ce document, vous avez deux grandes parties. Une partie qui s'appelle « Caractères principaux », c'est pas des titres très, très heureux, bon. « Caractères principaux », mais en tout cas le contenu est intéressant parce que donc, cette première partie va donner des éléments, va d'abord rappeler les principes, hein, comment s'harmonise la liturgie et puis la piété populaire, les pieux exercices, les pratiques de dévotion, et puis quel est son lien avec l'écriture, avec la théologie. Et puis dans une deuxième partie qui s'appelle « Orientation », alors là, vous avez comme une sorte de catalogue, hein, on passe en revue toutes les dévotions particulières, dont celle du Sacré-Cœur. Là, je vous ai mis tous les passages qui concernent la dévotion au cœur de Jésus dans ce directoire. Et donc, pour chacune de ces dévotions, vous avez une sorte de notice historique. Et puis, vous avez le rappel des formes de dévotion, des pieux exercices, comme dit le directoire, au sujet de cette dévotion. Et puis vous avez les raisons théologiques, hein, qui constituent le fondement de chaque dévotion, et puis éventuellement des recommandations, hein, s'il y a des lieux de vigilance, des points à purifier dans cette dévotion, des choses à rénover, à corriger, etc., ou à adapter, etc. Et donc dans la première partie sur les caractères principaux, eh bien, je relève un principe clé, d'abord la primauté de la liturgie, sur toutes les autres formes de dévotion et de prière chrétienne, bien sûr. Le document dit « Les sacrements, donc la liturgie, les sacrements sont indispensables pour pouvoir vivre unis au Christ, tandis que les diverses formes de piété populaire ont un caractère facultatif. » C'est un premier lieu de discernement, de distinction. Sacrement indispensable, la liturgie comme sommet de la vie de l'Église, et puis le caractère facultatif. Hein, donc les formes de piété populaire sont comme subordonnées, hein, à la liturgie, et pas l'inverse. En même temps, Deuxième point important, le caractère facultatif de ces pieux exercices n'est pas une dépréciation à leur égard. C'est pas parce qu'ils sont facultatifs qu'il faut les méconnaître et encore moins les mépriser, dit le texte. Par contre, il faut toujours veiller à ce qu'ils soient articulés à la liturgie, et puis il faut toujours à leur égard pratiquer une sorte de discernement, de purification, dit le texte. Et pour qu'il soit bien harmonisé avec le mystère chrétien, pour pas qu'il y ait une sorte de prolifération des dévotions en tout genre. Il y a des dévotions qui sont très très honorables et autres, et d'autres qui naissent, on se demande comment, pourquoi, quel est le lien avec l'écriture ou avec la liturgie. Et donc le directoire va donner des clés de discernement pour évaluer, pour discerner le bien fondé d'une dévotion, sa valeur, le fruit qu'on peut en attendre. Et puis donner donc des axes ou des moyens de corriger, de purifier, de rénover des dévotions qui devraient l'être. Et alors le premier critère pour authentifier la valeur d'une dévotion, c'est son inspiration biblique. Est-ce que ça a un lien avec l'Évangile ? Est-ce que c'est enraciné dans l'Écriture ? Le texte dit « On ne peut pas concevoir une prière chrétienne sans référence directe ou indirecte à un passage de la Bible. » Deuxième élément de discernement, donc d'abord l'inspiration biblique, ensuite l'inspiration liturgique. La piété populaire met en relief, ou de moins se fait l'écho des mystères célébrés dans les actions liturgiques. Donc j'ai employé tout à l'heure le mot subordonné, la piété populaire comme subordonnée à la liturgie. Là, le texte emploie une autre expression, elle doit au moins mettre en relief ou au moins se faire l'écho des mystères célébrés dans la liturgie. Et ensuite, le document insiste aussi sur la question écuménique. Il faut prendre en compte les sensibilités et les traditions chrétiennes diverses. Et puis l'inspiration anthropologique. Une dévotion, elle va s'appuyer sur des symboles, des expressions propres à un peuple, à une culture, à une époque. Et donc, la congrégation pour le culte divin met en garde aussi, enfin, en tout cas, appelle à une vigilance pour éviter tout archaïsme. Vous voyez, veiller à ce que les symboles soient adaptés. Il y a des symboles qui se démodent, d'autres qui restent au contraire très actuels. Donc, je vous ai mis, après avoir beaucoup hésité sur la manière de conduire cette séance, soit de prendre une figure, ou de prendre des extraits de saints sur la dévotion au cœur de Jésus, ou des révélations privées de Marguerite Marie, après avoir beaucoup hésité, j'ai décidé de vous donner donc l'intégralité des paragraphes du directoire sur la piété populaire et la liturgie concernant la dévotion au Sacré-Cœur, parce que c'est un texte qui est très bien fait. Vous avez tout dedans. Après, si vous voulez lire les révélations, les visions de Saint Gertrude ou les révélations de Marguerite Marie, la littérature est immense et vous n'aurez pas de mal à en trouver. Mais là, en tout cas, dans ces deux pages, vous avez un texte extrêmement riche qui a le mérite de bien rappeler tous les lieux scripturaires d'enracinement de la dévotion au Sacré-Cœur et puis ensuite de passer aussi rapidement en revue le développement de cette dévotion au cours des siècles, les différents saints qui ont été spécialement impliqués dans la révélation du Sacré-Cœur et dans son rayonnement. Et puis enfin, dans les derniers paragraphes, vous avez, à partir du numéro 171, vous avez le catalogue des formes de dévotion au Sacré-Cœur et puis des points d'attention, etc. Donc, en deux pages, j'aurais pu aussi vous donner des extraits de l'encyclique de Pie XII, mais en tout cas, ce directoire est un document plus récent et peut-être plus ramassé au niveau du contenu. Donc je lis avec vous les numéros 166 et 167, et puis ensuite on les commentera, on les approfondira. Le vendredi, qui suit le deuxième dimanche après la Pentecôte, donc on aura cette fête dans le courant du mois de juin, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. De nombreuses expressions de piété qui s'ajoutent à la célébration liturgique s'adressent au cœur du Christ. Il ne fait aucun doute en effet que parmi les expressions de la piété ecclésiale, la dévotion au cœur du Sauveur a été et demeure l'une des plus répandues et des plus estimées. L'expression « cœur de Jésus », entendue dans le sens contenu dans la Divine Écriture, désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité de son être ou le centre intime et essentiel de sa personne. Fils de Dieu, sagesse incréée, amour infini, principe du salut et de sanctification pour toute l'humanité. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur. Dans l'Esprit Saint, le cœur de Jésus est orienté par nature avec un amour infini, à la fois divin et humain, vers le Père et vers les hommes, ses frères. Quand on a lu l'encyclique Aurietis Aquas et qu'on l'a un peu en tête, c'est un tissu de citations et d'idées de l'encyclique qui sont comme condensées dans ce paragraphe. Donc voyez, qu'est-ce qui nous est dit là? C'est que tout le mystère du Christ, il parle là même tout le mystère chrétien, le mystère trinitaire, et puis le mystère de l'incarnation, de la rédemption, sont comme récapitulés dans le symbolisme du cœur de Jésus. Et donc c'est une dévotion qui a un contenu, un fondement et un contenu théologique immense. Je cite un texte de Benoît XVI en 2006, à l'occasion justement des 50 ans de cette encyclique. Eh bien, Benoît XVI avait écrit au préposé général de la Compagnie de Jésus, et il encourageait les jésuites dans leur vocation à diffuser la dévotion au cœur du Christ, puisque la Compagnie de Jésus a eu un rôle très important. On sait déjà Marguerite Marie et Claude la Colombière, mais ensuite bien des jésuites ont œuvré ardemment à la dévotion, à la diffusion du message de Parelmonial notamment. Et donc Benoît XVI écrivait ceci aux jésuites: contemplez le côté transpercé par la lance où s'exprime la volonté de salut sans limite de Dieu, ne saurait être une dévotion passagère. C'est quelque chose qui dure, c'est pas une dévotion passagère juste pour une époque. Ça ne se démode pas. Pourquoi ? L'adoration de l'amour de Dieu, dont le Sacré-Cœur est le symbole et l'expression d'une dévotion historique, demeure indispensable pour une relation à Dieu vivante. Les chrétiens ont le devoir de continuer à approfondir leur rapport au cœur de Jésus afin de raviver leur foi dans l'amour salvifique de Dieu. Et puis, dans une prière avant l'Angélus, juste après la fête du Sacré-Cœur de Jésus, en juin 2006, Benoît XVI disait aussi « Vendredi dernier, nous avons célébré le Sacré-Cœur de Jésus, une fête qui unit heureusement, de manière heureuse, la dévotion populaire et la profondeur théologique. » Alors, quels sont ces fondements scripturaires solides qui permettent de... Donc ce critère de discernement premier qui permet d'évaluer la qualité, le bien fondé d'une dévotion. Donc quels sont les différents fondements qu'on vient de lire dans ce numéro 167 ? Je n'ai pas encore lu. On va lire numéro 167 du directoire. La dévotion au cœur du Christ a des fondements solides dans la Sainte Écriture, ainsi que les pontifes romains l'ont souvent rappelé. Jésus, qui ne fait qu'un avec le Père, invite ses disciples à vivre en communion intime avec lui, à accueillir sa personne et ses paroles comme des références normatives qui doivent inspirer leur propre comportement, et il se révèle comme un maître doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Il est possible d'affirmer qu'en un certain sens, la dévotion au cœur du Christ est l'expression cultuelle de ce regard que, selon la parole prophétique et évangélique, toutes les générations chrétiennes portent vers celui qui a été transpercé. Jean 19, 37, qui cite le prophète Zacharie. C'est-à-dire vers le cœur du Christ transpercé par la lance, d'où jaillirent le sang et l'eau, qui qui sont les signes de l'admirable sacrement de toute l'Église. De même, le texte johannique qui narre la scène où le Christ montre ses mains et son côté à ses disciples, donc Jean chapitre 20, et celle qui présente la demande que Thomas adresse au Christ, de pouvoir étendre sa main pour la placer dans son côté, a exercé une influence importante sur l'origine et le développement de la piété envers le Sacré-Cœur de la part des fidèles de l'Église. Je lis encore le 168. Ces textes et d'autres encore qui présentent le Christ comme l'agneau pascal, certes immolé mais aussi victorieux, Apocalypse 5, ont fait l'objet d'une méditation assidue de la part des saints-pères qui en dévoilèrent les richesses doctrinales et qui, dès lors, invitèrent les fidèles à approfondir le mystère du Christ en entrant par la porte ouverte de son cœur. Ainsi, saint Augustin déclare « L'entrée est accessible grâce au Christ qui en est la porte. Celle-ci s'est ouverte pour toi aussi quand son cœur fut ouvert par la lance. Souviens-toi de ce qui en jaillit et choisis donc par où tu peux entrer. Du côté du Seigneur qui mourait sur la croix, le sang et l'eau jaillirent au moment où son cœur fut ouvert par la lance. L'eau te procure la purification et le sang la rédemption. » Donc, si on reprend ça, hein, pas à pas, quels sont les différents lieux scripturaires sur lesquels se fonde cette dévotion? En tout cas, on n'a pas besoin de, vous voyez, d'hésiter ou de chercher loin, il y en a plusieurs et ce sont des fondements solides. Hein. Donc le premier lieu cité, c'est Matthieu 11, 29. Hein, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez, etc. Car je suis doux et humble de cœur. » Là, c'est Jésus lui-même qui parle, hein, et c'est le seul lieu de l'Évangile où on parle vraiment du cœur de Jésus. Hein. À la croix, on ne parle pas de son cœur, on parle de son côté. C'est un autre mot. Hein. Mais là, c'est une parole de Jésus lui-même qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc un fondement, vous voyez, explicite, hein, indéniable. Et donc là, si on part de ce fondement-là, hein, de cette citation-là, eh bien l'idée clé, vous voyez, c'est de se mettre à l'école de Jésus. « Venez à moi, hein, mettez-vous à mon école. Venez à moi pour trouver le repos. Hein, » Donc c'est la première thématique, hein, se mettre à l'école, ça veut dire marcher à sa suite, devenir ses disciples, imiter donc les qualités, les vertus de son cœur, lui ressembler. Hein, on pourrait dire que c'est le thème de l'imitation, en tout cas de la suite, hein, de la sequela Christi, marcher à la suite, de se mettre à son école. Et donc chercher à imiter les vertus du cœur de Jésus, hein, devenir doux et humble de cœur à son image. Donc la thématique de l'imitation et puis la thématique du repos. Hein, vous trouverez le repos pour vos âmes. Je vais souligner, hein, au fur et à mesure de notre lecture, les différentes, on pourrait dire, il y a comme plusieurs avenues, hein, dans cette dévotion au cœur du Christ. Première avenue, voilà, c'est cette idée du repos, hein, trouver du repos auprès du cœur du Christ doux et humble. Autre fondement scripturaire très différent, vous voyez, c'est pas le cœur de Jésus doux et humble, c'est Jésus qui est encore en vie, hein, quand il dit ça. Autre fondement, c'est évidemment le mystère de la Passion, et plus spécifiquement le récit que nous donne saint Jean, hein, au chapitre 19, avec le côté du Christ ouvert, hein, percé par la lance d'un soldat, alors que Jésus est déjà mort, hein, un geste qui vise à s'assurer, à confirmer que le Christ est déjà mort et qu'il n'y a pas besoin de lui briser les jambes. Donc, vous voyez, c'est un autre fondement qui va donner une autre direction, hein, à la dévotion au Sacré-Cœur. Et c'est un fondement très important, puisque l'évangéliste, hein, quand il rapporte l'épisode, donc au chapitre 19 de l'Évangile de Jean, versets 31 à 37, va insister par trois fois en disant que c'est sur ce geste qu'il fonde son témoignage. Hein. Je vous lis juste ce verset pour ne pas prendre trop de temps. Donc un des soldats de sa lance lui perça le côté, il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez. Donc vous voyez, une insistance forte, volontaire. Et si Jean insiste autant, en apostrophant d'ailleurs directement ses lecteurs, hein, c'est le premier moment de l'évangile où l'évangéliste s'adresse à ses lecteurs en disant « vous hein, », pour que vous aussi vous croyiez, eh bien ça veut dire que Jean, en tout cas l'évangéliste, hein, a reconnu dans cette ouverture du côté de Jésus, il a entendu dans ce geste du soldat quelque chose hein, du mystère de la croix qui n'était pas encore pleinement révélé jusque-là. Il fonde son témoignage sur cet ultime geste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour l'évangéliste, eh bien ce geste, hein, qui extérieurement n'est qu'un geste de soldat, hein, qui accomplit sa mission, qui s'assure que le crucifié est déjà mort, eh bien, si ce geste n'est pas regardé de l'extérieur, mais avec un regard de croyant, hein, dans la foi, c'est un geste qui fait partie éminemment de la sagesse de Dieu. Moi, je dirais, c'est un geste de révélation. Il y a quelque chose du mystère de Dieu qui ne nous est révélé que dans ce geste-là. C'est déjà vrai symboliquement. Voyez, on peut dire en toute vérité que dans ce geste-là, hein, en Jésus, dans le mystère de la croix, dans cette blessure de son cœur, eh bien, Dieu nous a littéralement ouvert son cœur. Hein, on a cette expression-là, on ouvre son cœur à un ami, hein, on partage ce qu'on a de plus cher à un ami, on lui ouvre son cœur. Eh bien, dans ce geste-là et dans ce geste-là seulement, Dieu nous a ouvert son cœur en Jésus. Comme un ami révèle ses secrets à son ami. Donc vous voyez, ça c'est une autre avenue, hein, on pourrait dire une autre direction que va prendre la dévotion au cœur du Christ, c'est qu'elle est que ce cœur ouvert, ce côté ouvert, hein, eh bien il est le lieu de la révélation ultime de l'amour de Dieu pour nous. Et il est aussi le lieu même de l'accès, hein, comme une porte qui s'ouvre, on vient de lire une citation d'Augustin, hein, comme une porte qui nous ouvre l'accès au mystère même de Dieu, au mystère même du Père. Hein. Alors ça va être un thème de prédilection chez Saint Bernard et chez les cisterciens. Saint Bernard, juste un ou deux passages, dans les sermons sur le Cantique des Cantiques, Saint Bernard dit « Le clou, ou la lance, hein, le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi une clé qui ouvre afin que je puisse voir la volonté du Seigneur. Le secret de son cœur paraît à nu par les trous percés dans son corps. » Alors, évidemment, là aussi, on pourrait, je n'ai pas le temps de, on pourrait faire une année complète là-dessus, hein, mais dans ce geste du côté ouvert de Jésus, qui est un fondement donc évangélique de la dévotion au Sacré-Cœur, eh bien, il faudrait remonter encore plus loin et voir comment ce geste lui-même est l'accomplissement d'une quantité de préfigurations de l'Ancien Testament. J'en cite juste deux ou trois en vous donnant les références, puis vous pourrez faire une Lectio Divina magnifique sur cette thématique, hein. Mais le côté de Jésus est ouvert sur la croix le sixième jour, comme le côté du premier Adam avait été ouvert dans la Genèse, hein, au sixième jour de la création, et du côté d'Adam avait été tiré Ève, comme du côté ouvert de Jésus le sixième jour vont jaillir l'eau et le sang, hein, qui symbolisent les sacrements, hein, le mystère de l'Église. Vous voyez, donc accomplissement du mystère de l'homme, hein. Jésus, le nouvel Adam. Autre symbolique, vous irez relire la Genèse au chapitre 6, hein, où Dieu, quand il avait donné à Noé des prescriptions très précises pour construire l'arche, qui devait le sauver, lui, sa famille, et puis des couples de tous les animaux, avant que le déluge ne submerge la terre, eh bien, il y avait des petites précisions très intéressantes, hein, où Dieu lui demandait de placer la porte de l'arche sur le côté. Hein. Puis ensuite, voilà, tout le monde devait entrer, et puis ça se termine par « Et Dieu referma la porte sur Noé. » Donc vous voyez l'idée aussi d'une porte qui protège. Hein. Jésus, véritable arche de Noé, lieu dans lequel les croyants peuvent trouver refuge pour échapper au déluge. C'est une thématique importante de la dévotion au cœur du Christ. Hein. Le côté de Jésus comme refuge. On pourrait citer encore bien d'autres préfigurations dans l'Ancien Testament. Hein. Notamment celle aussi que Jean lui-même va citer, hein, quand il dit « Cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. » C'était une prescription qui concernait le rituel de l'agneau pascal. Hein. Vous irez relire le livre des Nombres au chapitre 9, ou l'Exode au chapitre 12. Donc, qui invite à reconnaître en Jésus le véritable agneau pascal. Hein. Et puis cet autre passage de l'Écriture, hein, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Prophétie du prophète Zacharie au chapitre 12. Donc voyez, on a vu premier fondement scripturaire, Matthieu 11, hein, « Je suis doux et humble de cœur ». Deuxième fondement, le côté ouvert de Jésus à la croix. Et puis enfin, troisième, hein, qui prolonge la passion, on pourrait dire, hein, c'est les apparitions du ressuscité qui va montrer à tous ses apôtres ses mains, et son côté, hein, dans lesquels eh ben, ils sont invités à voir la marque des clous, hein, la trace des blessures. Et puis il y a cet épisode supplémentaire avec Thomas qui a raté la première venue de Jésus, hein, et quand Jésus revient 8 jours plus tard, eh bien, il va y avoir ce petit dialogue avec Thomas, hein, qui va être invité à cause de son manque de foi, non, si je ne vois pas la marque des clous, je ne croirai pas, hein, et Jésus va lui dire, mais avance ta main. Mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais croyant. Et donc là, c'est l'idée, hein, que le cœur de Jésus, qui est encore marqué, hein, comme ses mains et ses pieds, par la trace des blessures, c'est le signe indélébile, hein, de son amour, de sa victoire sur la mort. Saint Thomas, quand il se pose cette question-là dans la Somme théologique, hein, mais pourquoi le ressuscité, le Christ glorifié, garde la trace de ses blessures? Les blessures, c'est toujours un signe de corruption, enfin, de mutilation, d'imperfection. Donc, le Christ glorifié ne devrait pas, hein, garder la trace de ses blessures, maintenant qu'il est victorieux de toute douleur et de toute mort. Et saint Thomas a cette très belle réponse. Hein, dit, mais la marque de ses blessures n'est pas un signe de c'est pas un défaut, hein, une dégradation de son corps. C'est le signe, le trophée de sa victoire. C'est le signe indélébile, hein, de sa victoire sur la mort et donc de l'amour qui nous a témoigné en s'offrant lui-même jusqu'à la mort. Et saint Thomas dit même cela. Hein, donc s'il y a des théologiens parmi vous, vous irez regarder dans la Somme théologique, dans la Tertia Pars, hein, question 54. Saint Thomas dit même que jusque dans la gloire, quand nous contemplerons le Christ dans son humanité glorifiée, eh bien, aux emplacements de ses blessures, une beauté spéciale apparaîtra. Vous voyez l'idée du cœur du Christ, encore marqué par la blessure de la lance, hein, comme étant le lieu le plus lumineux et le plus beau, finalement, hein, de son corps. Donc voyez l'idée de cette lance qui va ouvrir le cœur de Jésus comme une clé ouvre une porte. Hein. Donc quand on ouvre une porte, ben, il se passe deux choses. Hein. On voit ce qu'il y a derrière, hein. Donc c'est l'idée d'accéder au secret du mystère de Dieu. Et puis quand on ouvre une porte, ben, c'est aussi pour entrer. C'est pas seulement pour voir ce qu'il y a derrière, mais c'est pour entrer dans un lieu, pour entrer dans une demeure. Hein. Et donc ça, c'est plus le face-à-face de Jésus avec Thomas, qui va orienter cette compréhension-là de la dévotion du Sacré-Cœur. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Eh bien, les pères de l'Église, et puis donc je vous le disais, les cisterciens, tout spécialement, vont développer cette idée du cœur de Jésus, hein, du côté ouvert par la lance, comme une demeure dans laquelle on peut entrer. Donc comme une nouvelle arche de Noé, hein, dans laquelle on peut se réfugier, mais aussi comme une demeure, c'est-à-dire notre lieu, c'est notre lieu. Je vous lis un petit passage de Guillaume de Saint-Thierry, hein, donc ami de Saint-Bernard. Les sacrements de notre rédemption s'épanchèrent alors si bien, hein, à travers le sang et l'eau, que désormais nous ne mettons pas dans son flanc le doigt ou la main, comme Thomas, mais par la porte ouverte nous entrons tout entier jusqu'à ton cœur, Jésus, siège certain de miséricorde, etc. Ouvre, Seigneur, la porte au flanc de ton arche, afin que puissent entrer tous ceux que tu veux sauver à la face de ce déluge qui inonde tout sur la terre. Ouvre-nous le flanc de ton corps afin que puissent entrer tous ceux qui désirent voir les secrets du Fils. Et puis un autre cistercien, un Guéric d'Igny, va te cacher dans ses mains percées, dans ce côté ouvert. Qu'est-ce en effet que la plaie dans le flanc du Christ, sinon la porte ouverte au flanc de l'arche pour ceux qui seraient préservés du déluge? Seulement l'une était figure, l'autre est réalité. C'est là que tu seras caché en sécurité jusqu'à ce que passe l'iniquité. Là, tu n'auras rien à souffrir du froid, car dans les entrailles du Christ, la charité ne se refroidit pas. Là, tu seras inondé de délices, là, tu déborderas de joie, etc. Alors, je poursuis le directoire. Donc là, on a vu un peu les fondements, hein, scripturaires. Ben, on passe trop vite, mais... Là, vous avez l'essentiel. Au numéro 169, le directoire va maintenant présenter comment, à partir du Moyen-Âge, donc j'ai déjà parlé de Saint-Bernard, mais à partir de, oui, disons, tout le deuxième millénaire, hein, eh bien, cette dévotion va se développer, hein, s'approfondir. Le Moyen-Âge a été une époque particulièrement féconde pour le développement de la dévotion envers le Sacré-Cœur du Sauveur. Des hommes célèbres pour leur sainteté et leur doctrine, comme Saint Bernard, Saint Bonaventure, donc Saint Bonaventure, général des franciscains, des mystiques comme Sainte Ludegarde, Sainte Mechtilde de Magdebourg, les saintes religieuses Mechtilde et Gertrude du monastère d'Elfta, Ludolphe de Saxe, Sainte Catherine de Sienne, approfondirent le mystère du cœur du Christ en qui ils virent un refuge, auprès duquel il est possible de refaire ses forces, le foyer de la miséricorde, le lieu de la rencontre avec Jésus, le Sauveur, la source de l'amour infini du Seigneur, la fontaine d'où surgit l'eau vive du Saint-Esprit, la vraie terre promise et le véritable paradis. Et très riche, hein, oui. Alors, première distinction que fait ce paragraphe, et c'est une distinction entre ceux qui parlent du cœur de Jésus dans leur doctrine, hein, des gens comme Bernard, Bonaventure, des théologiens, hein, des prédicateurs. Donc il y a ceux qui en parlent, et puis ensuite il y a ceux qui vont relater une expérience mystique personnelle. Hein, Ludegarde, Mechtilde, Gertrude, Catherine de Sienne. C'est pas d'abord une prédication théologique, hein, sur la dévotion au cœur du Christ fondée dans l'Évangile, c'est la relation d'une expérience mystique. Ça peut être une vision, une révélation, etc. Et puis ensuite, c'est ce qu'on verra dans le paragraphe d'après, hein, donc vous avez les théologiens, vous avez les mystiques, et ensuite vous avez ceux qui sont chargés de répandre la dévotion, d'en être les apôtres. Ben ça, c'est comme les trois grandes étapes clés, hein, de la dévotion au Sacré-Cœur. Et puis, autre richesse de ce paragraphe, eh bien, vous y trouvez quasiment toutes les thématiques, hein, essentielles que la tradition a développées. Hein. Entrer dans le cœur, hein, ça je viens de vous en parler, donc je n'y reviens pas. Hein, donc le cœur vu comme refuge, comme vraie terre promise, comme véritable paradis. Vous avez une deuxième thématique essentielle. Donc ça, c'est celle qui est vécue par les mystiques, hein, on va en voir deux ou trois exemples. C'est la thématique de l'échange des cœurs. Quand le paragraphe dit le lieu de la rencontre avec Jésus, la source de l'amour infini, hein, c'est le fait d'être uni au cœur du Christ, pas seulement d'y entrer, mais de lui être uni, de ne faire qu'un. Hein, c'est un thème nuptial, hein, qui va se traduire chez certains mystiques par des expériences très particulières, comme celle qu'on appelle l'échange des cœurs, où Jésus va prendre le cœur de Lutgarde et lui mettre son cœur à lui, à la place, hein, l'échange des cœurs. Ou alors une autre expression particulière, c'est celle de la stigmatisation. Voilà. Mais l'idée, c'est l'union des cœurs. Voilà, donc un thème plus nuptial, on pourrait dire. Et puis le troisième thème essentiel que la tradition va développer, c'est l'idée du cœur source auquel on vient se désaltérer, boire aux côtés du Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous pouvez lire tous les auteurs qui parlent du Sacré-Cœur, tous les mystiques qui ont eu telle ou telle expérience. On pourrait dire que tout, d'une certaine manière, se rattache à l'une de ces trois grandes avenues. Soit c'est entrer dans le cœur pour y trouver refuge ou s'y reposer, soit c'est l'union des cœurs, soit c'est boire au cœur du Christ, se désaltérer, s'abreuver. Voilà. Je crois que c'est vraiment les trois thèmes essentiels. Donc, entrer dans le cœur, je n'y reviens pas. Je vous dis quelques mots sur cette union des cœurs, cet échange des cœurs, si vous voulez. Le premier exemple connu que nous en avons, c'est donc Lutgarde de Tongres. Donc, c'est fin 12e et puis première moitié du 13e siècle. Jeune, elle est placée comme oblate au monastère bénédictin de Saint-Tron. Donc elle n'est pas religieuse, si vous voulez, mais elle est placée là, elle est éduquée dans ce monastère. Et puis voilà que vers 15-16 ans, elle commence à nouer une liaison avec un jeune homme, un jouvenceau qui la visite, des visites tout à fait courtoises, mais en tout cas rien d'extraordinaire ni de coupable, puisqu'elle n'était pas liée à l'état religieux. Mais voilà, c'est l'époque des rêves où on tombe amoureux et ce jeune homme lui fait la cour, etc. Et puis voilà qu'un jour, en 1199, où Lutgarde attend assise tranquillement la visite de ce jouvenceau, eh ben c'est un autre qui arrive. C'est pas ce jeune homme, c'est un autre, et c'est le Christ. Et le Christ va lui dire, en lui découvrant sa poitrine et en lui montrant donc son cœur blessé, « Ne cherche plus les flatteries d'un vain amour, regarde ici et contemple désormais ce que tu dois aimer et pourquoi tu dois l'aimer. C'est ici que je promets de te faire goûter des délices de toute pureté. » Oui, c'est la première révélation du cœur de Jésus lors d'une expérience mystique, pas seulement une réflexion théologique, mais une révélation. Et puis c'est une parole, une révélation efficace, puisque Lutgarde va renvoyer gentiment son petit amoureux et se consacrer à l'amour du cœur du Christ. Et puis elle va vivre, donc un peu plus tard, devenue moniale dans ce monastère, elle va vivre donc cette première expérience qui nous a été relatée, de cet échange des cœurs. Le Seigneur lui avait fait des grâces particulières, parce qu'elle était tout à fait sans lettres, sans culture, et elle avait une grâce de comprendre l'écriture, de comprendre aussi les psaumes sans savoir le latin, alors les psaumes qu'elle chantait en latin à l'office. Et puis, elle est un peu audacieuse, et pour ne pas dire plus, parce qu'elle va se plaindre au Seigneur de cette grâce qu'elle a reçue, en disant « Mais que m'importe à moi de savoir les secrets de l'écriture, comme si ça ne lui suffisait pas. Que m'importe à moi, monial, et non dans les ordres, de savoir les secrets d'écriture. C'est bien gentil, cette grâce que tu m'as faite, mais elle ne me sert pas à grand-chose. » Alors Jésus est gentil, miséricordieux, il dit, « Que veux-tu donc ?»« Ce que je veux, dit-elle, c'est votre cœur. » Et le Seigneur, « Bien plutôt, c'est moi qui veux ton cœur. » Oui, c'est ce petit... Elle lui répondit, « Qu'il en soit ainsi, Seigneur. » De telle façon cependant que vous accordiez à mon cœur l'amour de votre cœur et qu'en vous je possède mon cœur bien à l'abri et pour toujours sous votre garde. Alors eut lieu l'échange des cœurs. Voilà, donc ça nous est raconté par un dominicain, Thomas de Cantipré, qui est donc le biographe de Lutgarde, qui a raconté sa vie. Voilà. Donc première confidente du cœur de Jésus. Peu après ça, vous avez un autre foyer très important de la révélation du cœur du Christ, c'est le monastère d'Elfta, en Saxe. Et dans ce monastère, eh bien, vous avez deux Mechtilde et deux Gertrude. Alors, j'ai pas le temps de tout développer, mais je vous cite, on va peut-être prendre seulement Gertrude, c'est peut-être la plus connue, Gertrude la Grande, donc 1256-1301. Et donc elle aussi va avoir une grâce très particulière. Le Christ va lui ouvrir son cœur un jour et lui ordonner d'y plonger la main. Donc je vous lis le récit qui en est fait. Elle la retire chargée de 7 anneaux d'or, gage des promesses que Jésus lui a faites. Vous avez encore ajouté, Seigneur, à votre inestimable et familière tendresse, en m'offrant de diverses manières le noble trésor de votre divinité, je veux dire votre sacré cœur, pour faire toutes les délices de mon âme. Vous me le donniez parfois en pur don, et parfois vous preniez le mien en échange. Vous voyez encore cette idée de l'échange des cœurs. Pour marquer que j'étais tout à vous et que vous étiez tout à moi, etc. Voilà. Et puis, donc, elle, on la considère comme la première théologienne du cœur de Jésus. Voilà un titre que la tradition lui accorde. Et puis, donc, troisième avenue, l'idée de boire à une source, de boire aux côtés du Christ. Vous trouvez ça, par exemple, chez Catherine de Sienne. Donc là, en 14e siècle, tertiaire dominicaine. Elle va vivre également l'échange des cœurs. Mais on trouve dans ses lettres, à plusieurs reprises, une invitation à venir boire à la source qu'est le cœur de Jésus. Alors Catherine de Sienne, c'est pas n'importe qui, proclamé docteur de l'Église en 1970 avec Thérèse d'Avila. Et alors, Catherine de Sienne écrit ceci à Raymond de Capoue: « Mettez vos lèvres aux côtés du Fils de Dieu. C'est une ouverture qui lance le feu de la charité, qui verse le sang pour laver nos iniquités. » L'âme qui s'y repose et qui regarde avec l'œil de l'intelligence ce cœur ouvert et consumé par l'amour devient semblable à lui, parce que se voyant tant aimée, elle ne peut s'empêcher d'aimer aussi, etc. Donc voyez l'idée de mettez vos lèvres aux côtés du Fils de Dieu et en buvant, en vous abreuvant à cette source, eh bien vous devenez semblable à lui, parce que vous voyant tant aimée, eh bien vous ne pourrez vous empêcher d'aimer de la même manière à votre tour. Continue pour avancer, numéro 170 du directoire. À l'époque moderne, le culte rendu au cœur du Sauveur connut de nouveaux développements. En un temps marqué par le jansénisme qui insistait sur les rigueurs de la justice divine, la dévotion au cœur du Christ constitua un antidote efficace qui contribua à susciter chez les fidèles l'amour du Seigneur et la confiance en son infinie miséricorde, dont le cœur est à la fois le gage et le symbole. Parmi les nombreux saints et saintes qui ont été des apôtres, un signe de la dévotion du Sacré-Cœur, il convient de citer saint François de Sales, qui adopta comme norme de vie et d'apostolat l'attitude fondamentale qui est celle du cœur du Christ, donc doux et humble, caractérisée par l'humilité, la mansuétude, l'amour tendre et miséricordieux. Sainte Marguerite Marie Alacoque, à qui le Seigneur dévoila à plusieurs reprises les richesses de son cœur. Saint Jean Eudes, qui promut le culte liturgique du Sacré-Cœur, Saint Claude la Colombière, Saint Jean Bosco. On pourrait citer encore d'autres. Alors, quelques mots sur Sainte Marguerite Marie. Là encore, la littérature est immense, donc je ne m'attarde pas trop. Mais donc, pour ceux qui étaient là quand on a parlé de Saint François de Sales, Marguerite Marie, elle est visitandine. Donc elle est formée à l'école du traité de l'amour de Dieu de François de Sales. Et donc elle va entrer à la visitation de Paray-le-Monial et elle va être favorisée d'apparition du Sacré-Cœur entre 1673 et 1675, et donc avec son père spirituel jésuite, Claude la Colombière. Eh bien elle va participer à l'expansion, au rayonnement. Donc c'est pour ça que dans ce paragraphe du directoire, on parle des apôtres de la dévotion du Sacré-Cœur. Parce que là, on passe à une étape supplémentaire, c'est celle de la diffusion du culte. Alors une diffusion qui va avoir des aspects tout à fait pratiques, parce que Jésus va demander des choses très précises. Comme l'heure tourne, donc première révélation le 27 décembre 1673. Il me dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, etc. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein. Après, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, etc. Deuxième révélation, 1674. Alors là, c'est la vision du Sacré-Cœur, environné de flammes, avec la couronne d'épines et puis une croix au-dessus. Et Marguerite Marie écrit ceci. Ce divin cœur me fut présenté dans un trône de flammes, plus rayonnant qu'un soleil, transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. Il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire dès lors que son Sacré-Cœur fut formé, la croix y fut plantée. Et donc là, il va y avoir une première demande. Hein. Jésus demande que l'on honore le Sacré-Cœur sous la forme de cette image. Vous voyez, donc comme une recommandation sur la forme pratique que pouvait prendre cette dévotion au cœur du Christ, une dévotion à l'égard de cette image. Et Jésus dit, partout où cette sainte image... Non, c'est Marguerite Marie qui raconte... où cette sainte image serait exposée pour y être honorée, il y répandrait ses grâces et ses bénédictions. Puis, troisième révélation, alors Jésus va demander à Marguerite Marie de suppléer à l'ingratitude. On connaît bien cette parole de la quatrième révélation, troisième et quatrième, quand Jésus dit « Mais voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour témoigner son amour. » Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, etc. Donc Jésus va faire des recommandations. Il va demander à Marguerite Marie de suppléer autant que tu le pourras à leur ingratitude, et cela par plusieurs pratiques. D'abord, recevoir l'Eucharistie aussi souvent que l'obéissance le lui permettra. La communion supplémentaire tous les premiers vendredis du mois. Et puis, ce qu'on appelle l'heure sainte, une heure d'adoration du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, en union avec la prière de Jésus à Gethsémani, au Jardin des Oliviers. Et puis, dans la quatrième révélation, il va demander en plus donc une fête particulière pour honorer son divin cœur, là aussi avec un accent particulier de réparation à l'égard de toutes les indignités qu'il a reçues. Etc. Donc là, vous voyez, avec Marguerite Marie et puis tous les efforts de Claude la Colombière, et puis Jean Eudes, qui va promouvoir, lui, une diffusion liturgique du culte du Sacré-Cœur, eh bien, cette dévotion va prendre, on pourrait dire, en un siècle, parce que ça ne s'est pas fait tout de suite, mais enfin, en un siècle, un rayonnement immense qui va atteindre aux dimensions du monde. Et finalement, donc en 1856, après que cette fête du Sacré-Cœur a été petit à petit célébrée dans telle ou telle congrégation, puis dans tel ou tel diocèse, eh bien Pie IX va étendre la fête du Sacré-Cœur à l'Église universelle. Voilà, il me reste 5 minutes pour regarder les différentes formes de dévotion au cœur du Sauveur qui sont citées dans le directoire. Parmi ces dernières, on peut citer la consécration personnelle, qui, selon Pie XI, parmi toutes les pratiques se référant au culte du Sacré-Cœur, est sans conteste la principale d'entre elles. Donc il y a les prières de consécration au Sacré-Cœur. Et vous avez aussi, donc c'est la deuxième pratique citée, la consécration de la famille. Introniser le Sacré-Cœur au cœur d'une famille chrétienne. C'est une famille entière qui se consacre. Et là, particulièrement le père Matteo, un prêtre péruvien qui, dans la première moitié du XXe siècle, a répandu cette dévotion à travers le monde en préconisant l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Et puis vous avez les litanies du cœur de Jésus, l'acte de réparation, la pratique des 9 premiers vendredis du mois, etc. Je remarque, je ne sais pas pourquoi, mais que l'heure sainte n'est pas mentionnée. Dans le directoire. Et puis enfin, vous avez un paragraphe 173 qui parle de la question, la question iconographique. en disant mais c'est pas anodin la manière dont on va représenter le mystère hein, qu'on veut célébrer ou qu'on veut vénérer. La piété populaire tente à identifier une dévotion avec sa représentation iconographique. Ce phénomène, qui est normal, a sans doute des aspects positifs, mais il peut aussi donner lieu à quelques inconvénients. Vous voyez, petit avertissement. Un modèle iconographique qui ne correspond plus au goût des fidèles peut conduire à une dépréciation de l'objet même de la dévotion. Ouais, donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Hein. Ça veut dire que si l'image, on sait l'impact de l'image, hein, on peut faire le meilleur et le pire avec une image. Vous pouvez transmettre la foi, hein, l'image peut être une catéchèse extraordinaire, mais vous pouvez aussi faire dévier la foi par une image qui n'est pas fidèle au mystère représenté. Hein. Donc un modèle iconographique qui ne correspond plus au goût des fidèles peut conduire à une dépréciation de l'objet même de la dévotion, indépendamment de son fondement théologique et des éléments qui constituent son contenu historico-salvifique. Ce fait a pu être vérifié dans le domaine de la dévotion à l'égard du Sacré-Cœur. Certaines images picturales, parfois mièvres, s'avèrent inadaptées pour exprimer la solidité du contenu théologique de cette dévotion. Et elle n'encourage donc pas les fidèles à s'approcher du mystère du cœur du Sauveur. Vous voyez, c'est à propos du Sacré-Cœur, hein, mais vous pouvez transposer pour d'autres choses. Je trouve que c'est très, très intéressant de se rappeler ça, hein, même pour ceux parmi vous qui peut-être font de la catéchèse. Ou, hein, comment utilisons-nous les images? Ce n'est pas anodin, une petite image, il y a quelque chose, c'est un véhicule de la foi, hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut veiller à ce que... une image ne desserve pas la foi qu'elle est censée normalement aider à transmettre. Hein. Donc là, voilà, l'Église nous met en garde contre des images mièvres, inadaptées, qui finalement vont desservir la qualité théologique et la solidité d'une dévotion. À notre époque, la tendance à représenter le Sacré-Cœur au moment de la crucifixion est bien accueilli, parce que cette image exprime au plus haut degré l'amour du Christ. Le Sacré-Cœur s'identifie au Christ crucifié, dont le côté ouvert par la lance laisse jaillir le sang et l'eau. Vous voyez un exemple iconographique récent, hein, qui n'est pas abordé là, directement, enfin explicitement dans le directoire. C'est le tableau de Jésus miséricordieux, hein, demandé à Sainte Faustine. Vous avez peut-être l'image dans la tête. Donc Jésus qui découvre son cœur, d'où jaillissent un rayon blanc et un rayon rouge. Hein. Voilà. Bon, ben, il faut toujours veiller à la qualité iconographique, hein, picturale. De telle sorte, vous voyez, que l'image vienne servir la théologie ou la liturgie, hein, ou la ferveur. En tout cas, ce que nous dit le directoire ici, c'est que la tendance moderne, hein, contemporaine dirons-nous, à représenter le Sacré-Cœur au moment de la crucifixion semble bien accueillie. Vous voyez, il y a quelque chose d'adapté, hein, comme pour révéler, pour manifester, pour exprimer, hein, au plus haut degré, dit le texte, l'amour du Christ, hein, ou la miséricorde. Voilà, j'aurais pu, vous voyez, presque toutes les figures que nous avons rencontrées jusqu'à aujourd'hui auraient eu quelque chose à nous dire, hein, spécifiquement sur le Sacré-Cœur. Vous avez des choses chez François de Sales, Thérèse d'Avila a aussi vécu des expériences mystiques, hein, elle a eu elle-même son cœur transpercé, etc. Donc vous voyez, une dévotion qui finalement fait l'unité de toutes les figures spirituelles, de toutes les époques. Mais je vous invite à garder, voyez, ces trois thématiques théologiques essentielles, hein, de le cœur refuge, le cœur qui désaltère, et puis le cœur amour, hein, qui appelle une réponse, parce que c'est finalement le cœur, hein, de cette relation vivante avec Dieu que Benoît XVI appelait de ses voeux en disant mais le chrétien doit chercher à approfondir sa relation au cœur du Christ, parce que c'est sa relation même avec la personne, hein, la personne même du Christ et avec le mystère de Dieu. Voilà. Voilà donc l'exemple d'une spiritualité, d'une dévotion qui exprime d'une manière vivante le lien même du croyant avec Dieu. Voilà, je vous remercie.